الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La prière des pieux. L'invocation d'Attar. Ô Allah Azza wa Jal. Quiconque lit ou écoute le livret, la prière des pieux, accorde-lui la vraie crainte de toi et accorde-lui, ainsi qu'à ses parents, un pardon sans avoir à rendre de compte. Excellence de la salat. Amin. Bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. Excellence de la salat. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: la personne la plus proche de moi parmi vous au jour du jugement sera celle qui aura recité la salat en abondance sur moi dans le monde. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Trois armes sataniques. Récit. Le saint Abi Sayyiduna Wahb bin Munabbih rahmatullahi alayh a déclaré que Satan essaya de toutes ses forces de tromper un saint rahmatullahi alayh de Bani Israël, mais n'y parvint pas. Un jour, le saint se rendit quelque part pour satisfaire un besoin et Satan le suivit également. Satan essaya de le tromper par ses désirs et sa colère, mais sans succès. Alors, pour effrayer le saint, Satan poussa vers lui un rocher du haut d'une montagne. Le saint commença à réciter le dhikr d'Allah Azzawajal et le rocher s'éloigna de lui. Par la suite, Satan lui apparut sous la forme d'un lion et d'autres bêtes, mais le saint recommença à réciter le dhikr d'Allah Azzawajal et n'y prêta pas attention. Lorsque le saint commença à prier, Satan, sous la forme d'un serpent, passa à côté de ses pieds, s'enroula autour du corps du saint et atteignit sa tête. Le saint voulut se prosterner, mais le serpent s'enroula autour de son visage. Au moment où le saint allait poser sa tête bénie sur le sol pour se prosterner, le serpent ouvrit la bouche pour avaler sa tête, mais le saint la retira et se prosterna sur le sol. Après avoir terminé la prière, il se déplaça. Satan apparut alors sous sa véritable forme et dit « J'ai fait tout mon possible pour te tromper, mais je n'ai pas réussi. Je veux maintenant me lier d'amitié avec toi et je ne te tromperai plus jamais à l'avenir. » Le saint répondit « Aujourd'hui, tu as fait ton maximum pour me faire peur, mais... par la grâce d'Allah Azzawajal, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas besoin de ton amitié. » Satan dit, « Ne me demandes-tu pas ce qui est arrivé aux membres de ta famille en ton absence ?» Le saint répondit, « Je suis mort auprès d'eux, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit à leur sujet. » Satan demanda, « Ne vas-tu pas me demander comment je trompe les gens ?» Le saint répondit, « Oui, informe-moi de cela. » Satan répondit, « Je trompe les gens au moyen de trois choses. 1. L'avarice. 2. La colère. 3. L'ivresse. Lorsqu'une personne devient avare, je fais en sorte que sa richesse lui paraisse moindre et par conséquent, poussée par l'avidité d'une augmentation de sa richesse, elle ne remplit pas les droits de sa richesse déclarés par la charia. En fait, il est même tenté d'obtenir la richesse d'autrui. Lorsqu'une personne se met en colère, je joue avec elle comme des enfants jouent avec un ballon. Même si elle est si pieuse qu'elle peut ressusciter les morts grâce à sa prière, je ne suis pas déçu par cet homme colérique. Car tôt ou tard, il perdra son sang-froid et dira une phrase qui détruira sa vie après la mort. Et lorsqu'une personne prend de l'alcool, je l'entraîne dans n'importe quelle mauvaise action que je souhaite, tout comme une chèvre que l'on tient par l'oreille et que l'on emmène. Ô dévot du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam, ce récit montre que Satan ne ménage aucun effort pour empêcher un serviteur d'adorer, mais que les serviteurs pieux et sincères restent à l'abri des pièges sataniques par la grâce et la miséricorde d'Allah Azzawajal. Il est également apparu clairement que l'avarice, la colère et l'intoxication sont trois armes sataniques mortelles par lesquelles Satan tente de détruire les gens. Chaque musulman devrait s'efforcer de rendre ces armes de Satan inutiles. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. Si seulement nous pouvions prier les yeux pleins de larmes. Au moment de lever les mains en prononçant le « At-Takbirat ou Tahrimah » de la prière, si seulement nous imaginions que nous voyons Allah Azzawajal, ou au moins nous devrions penser qu'Allah Azzawajal nous regarde et que nous ne lui sommes pas cachés même pour un instant. En état de Qiyam, si seulement la fortune nous souriait et que nous suspendions nos têtes dans la honte, les épaules tremblantes de crainte et le visage pâle de peur. Si seulement nous avions de l'humilité et de la concentration dans nos cœurs et que les parties de notre corps l'exprimaient également. Si seulement les larmes continuaient à couler de nos yeux et si nous avions un sentiment de profonde révérence pour Allah Azzawajal lorsque nous nous inclinons et nous prosternons dans la prière. De plus, lors de la prosternation, nous devrions être convaincus que nous sommes très proches d'Allah Azzawajal à ce moment-là. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est dans l'état de prosternation qu'un esclave est le plus proche d'Allah Azzawajal. » Mais ces états ne se produiront que lorsque notre cœur sera libéré des souillures du monde. Nous devrions réaliser qu'Allah Azzawajal nous observe et que nous devrons répondre de nos actes à sa cour. Notre esprit doit être rempli des pensées de l'au-delà. Le son d'une marmite en ébullition provenait de la poitrine bénie. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière, un son similaire au frémissement d'un chaudron provenait de sa poitrine bénie. Visage pâle, récit. Sayyiduna Imam Zayn ul Abidin rahmatullahi alayhi était un arrière-petit-fils du bien-aimé prophète et un fils bien-aimé de Sayyiduna Imam Hussein radiyallahu anhu. Lorsque l'imam Zayn ul Abidin rahmatullahi alayhi faisait ses ablutions, son visage devenait pâle. Les membres de sa famille lui demandèrent « Que vous arrive-t-il au moment de faire vos ablutions ?» Il répondit « Vous ne savez pas dans quel cours je vais me tenir. » Sayyiduna Ali radiyallahu anhu trembla. Récit. Au moment de la prière, le lion d'Allah, Sayyiduna Ali ul-Murtada radiyallahu anhu, tremblait et son teint changeait. Les gens demandaient « Ô chef des croyants, que s'est-il passé ?» Il répondait « Il est temps maintenant de s'acquitter de la amana qu'Allah Azzawajal avait offerte à la terre, au ciel et aux montagnes. Et ils ont refusé de la supporter et ont pris peur. Mais moi, c'est-à-dire l'humanité, je l'ai supportée. » Sayyiduna Yahya alayhi salam pleurait abondamment. Sayyiduna Yahya alayhi salam était un véritable prophète d'Allah Azzawajal et était le fils d'un autre prophète, Sayyiduna Zakariya alayhi salam. Lorsque Sayyiduna Yahya alayhi salam se levait pour faire la prière, il pleurait tellement que les arbres et les mottes de terre se mettaient à pleurer avec lui. Sayyiduna Yahya alayhi salam continuait à verser des larmes de la même manière et en raison de l'écoulement constant de larmes, des plaies apparaissaient sur ses joues bénies. Sa mère respectée collait des bandages de laine sur ses joues bénies. Chaque fois qu'il se levait pour faire la prière, il se mettait à pleurer. Les bandages de laine devenaient alors humides. Lorsque sa respectable mère les essorait pour les sécher et qu'il voyait ses larmes tomber sur le bras de sa mère, il implorait Allah Azzawajal en ces termes. « Ô Allah, Azzawajal miséricordieux, ce sont mes larmes, elle est ma mère, et je suis ton serviteur. » alors que tu es le plus miséricordieux. Voix éplorée de Sayyiduna Umar radiyallahu anhum, récit. Sayyiduna Abdullah bin Umar radiyallahu anhum a déclaré « J'ai accompli la prière derrière le chef des croyants, Sayyiduna Umar radiyallahu anhu, et je l'ai entendu pleurer à une distance de 3 rangs derrière lui. » Description de l'enfer, récit. Sayyiduna Bishr bin Hussein rahmatullahi alayhi a déclaré « Chaque fois que j'ai vu Sayyiduna Sayyid bin Abdel Aziz, rahmatullahi alayh, debout, accomplissant une prière obligatoire, j'ai vu des larmes couler sur sa barbe bénie. Sayyiduna Ishaq bin Ibrahim, rahmatullahi alayh, a déclaré « Je voyais Sayyiduna Sayyid bin Abdel Aziz, rahmatullahi alayh, faisant la prière face à la Qibla et j'entendais le bruit de ses larmes tombant sur le tapis. » Sayyiduna Abu Abdirrahman al-Asadi, rahmatullahi alayh, a déclaré « J'ai demandé à Sayyiduna Sayyid bin Abdel Aziz, rahmatullahi alayh, « Ô Abu Muhammad, pourquoi pleures-tu dans la prière ?» Il demanda, « Ô neveu, pourquoi as-tu demandé ?» Je répondis, « Peut-être qu'Allah Azzawajal m'en fera bénéficier. » Ainsi, Sayyiduna Sayyid bin Abdel Aziz, rahmatullahi alayh, expliqua, « Chaque fois que je suis sur le point de me lever pour faire la prière, la scène de l'enfer est apparente devant moi, le saint qui pleurait tout le temps. » Sayyiduna Sufyan rahmatullahi alayhi a déclaré « Les larmes de Sayyiduna Sayyid bin Sayyib al-Taifi rahmatullahi alayhi ne diminuaient pas. On le voyait pleurer tout le temps. Qu'il fasse la prière, qu'il accomplisse le tawaf ou qu'il lise le noble Coran assis, il continuait à verser des larmes. Chaque fois que je le rencontrais sur un chemin, je le trouvais en train de pleurer. Une personne lui reprocha de pleurer tout le temps. Alors, par humilité, il expliqua à cette personne en pleurant « Vous devriez me reprocher mes erreurs et mes excès, et non le versement de larmes. Ces deux-là, c'est-à-dire les erreurs et les excès, m'ont dominé. » Lorsque la personne l'entendit, elle le laissa. Règle de la loi islamique sur les pleurs pendant la prière. Pendant la prière, en raison d'une douleur ou d'un trouble, si les mots « ah » ou « aïe » ouf sont prononcés, ou si des lettres sont prononcées en pleurant, la prière devient invalide. Cependant, il n'y a pas de mal à ce que les larmes coulent des yeux sans qu'on ne prononce une lettre ou ne fasse un son. Si un suiveur, dans la prière, se met à pleurer pendant la prière en entendant la récitation de l'imam et qu'il prononce le mot « Oh » ou « Na'am » ou « Oui ». Il n'y a pas de mal à cela, parce que ce mot a été prononcé en raison de l'humilité et de la concentration. Cependant, s'il prononce ces mots à cause de la voix mélodieuse de l'imam, la prière deviendra invalide. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Mémorisez le sens de ce qui est récité dans la prière. Pour atteindre l'humilité et la concentration, nous devrions connaître le sens des sourates et des litanies récitées pendant la prière, telles que la sana, la sourate al-fatiha, le tasbihat du ruku et les prosternations, la salat, etc., afin que nous comprenions ce que nous demandons à notre Seigneur dans la prière. Si nous gardons à l'esprit le sens des versets coraniques et des invocations, nous pourrons maîtriser nos pensées. De cette façon, nous serons bénis en accomplissant la prière avec une totale humilité et concentration, alhamdoulillah, ignorant qui est de chaque côté. Sayyiduna Hakam rahmatullahi alayh a déclaré « La perfection de la prière consiste à ne pas savoir qui se trouve à sa droite et à sa gauche. » Sayyiduna Abdullah bin Abbas radiallahu anhum a mentionné « Le khushu dans la prière signifie que l'adorateur ne doit pas reconnaître la personne présente à sa droite et à sa gauche. » Le saint Abi, Sayyiduna Sayyid bin Jubayr rahmatullahi alayh a déclaré « 40 ans se sont écoulés depuis que j'ai entendu cette parole de Sayyiduna Abdullah bin Abbas radiallahu anhum et je n'ai pas reconnu la personne présente à ma droite et à ma gauche. » Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Accomplir une prière dans la précipitation, c'est perdre son essence. Si un adorateur n'accomplit pas calmement le ruku, la prosternation, la qawmah et la jalsa, etc., il ne pourra jamais atteindre l'humilité et la concentration. Faire la prière dans la précipitation, c'est perdre l'essence même de la prière. Accomplir une prière dans la précipitation. Il est profondément regrettable qu'à l'époque actuelle, seul un très petit nombre de musulmans accomplissent la prière. Même parmi ceux qui la font, certains gâchent régulièrement leur prière parce qu'ils les précipitent. Celui qui fait la prière de façon incorrecte a été déclaré voleur de prière. Le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le pire voleur parmi les gens est celui qui vole dans sa prière. » Les compagnons bénis, radiallahu anhum, demandèrent humblement « Ô messager d'Allah, comment une personne peut-elle voler dans sa prière ?» Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Il ne s'incline pas et ne se prosterne pas complètement, ou le bien-aimé prophète. » Sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne redresse pas son dos pendant les inclinaisons et les prosternations. » Le voleur de la prière est pire que le voleur de la richesse. Commentant ce hadith béni, le mufti Ahmad Yar Khan rahmatullahi alayhi déclarait « Il est évident que le voleur de prière est pire que le voleur de richesse, car le voleur de richesse obtient au moins un bénéfice matériel des richesses volées, bien qu'il soit puni. » Quant au voleur de la prière, il sera puni, mais n'en tirera aucun bénéfice. Le voleur de biens viole les droits des gens, mais le voleur de prière viole le droit d'Allah Azzawajal. Telle est la condition de ceux qui accomplissent la prière sous une forme déficiente. Ceux qui n'accomplissent pas du tout la prière devraient donc en tirer une leçon. Avertissement de mauvaise fin. Sayyiduna Hudayfa bin al-Yaman radiallahu anhu a vu une personne s'incliner et se prosterner de façon incorrecte pendant sa prière. Alors, il a averti la personne « Tu n'as pas fait la prière. Si tu meurs dans le même état, tu ne mourras pas sur la voie de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » La narration de Sunan an-Nasa'i indique également qu'il a demandé « Depuis combien de temps faites-vous la prière de cette manière ?» La personne répondit « Pendant 40 ans, Sayyiduna Hudayfa radiallahu anhu l'avertit « Tu n'as pas fait la prière pendant 40 ans. Si la mort te frappe dans cet état, tu ne mourras pas en suivant la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne picorez pas comme un corbeau. Sayyiduna Abdurrahman bin Shibli radiallahu anhu a déclaré « Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de picorer comme un corbeau et d'écarter les avant-bras comme une bête. » Explication du hadith. Il ne faut pas se prosterner précipitamment comme un corbeau qui frappe son bec sur le sol et le soulève instantanément, ni placer ses coudes en prosternation sur le sol comme le fait un chien, un loup, etc., en position assise. Exemple d'une personne qui fait la prière dans la précipitation. Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu a rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré L'exemple de la personne qui n'effectue pas de ruku complètement et picore en prosternation est comme l'affamé qui mange une ou deux dattes, ce qui ne peut pas apaiser sa faim. Ordonna que la prière soit répétée. Sayyiduna Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté. Le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis dans un coin de la mosquée lorsqu'une personne arriva et fit la prière. Elle fit ensuite le salam au bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, lui conseilla. Wa alayka salam, retourne et fais la prière, car tu n'as pas accompli la prière. La personne retourna, fit la prière, revint et fit salam. Il sallallahu alayhi wa sallam dit à nouveau, wa alayka salam, retourne et fais la prière, car tu n'as pas fait la prière. La deuxième fois ou après, la personne dit humblement, ô messager d'Allah, enseignez-moi s'il vous plaît. Il sallallahu alayhi wa sallam expliqua, lorsque tu te lèves pour faire la prière, accomplis les ablutions soigneusement, puis fais face à la Kaaba et prononce le takbir. Ensuite, récite le Coran autant que ce qui t'est facile. Ensuite, fais le ruku jusqu'à ce que tu t'inclines en toute tranquillité. Ensuite, lève-toi jusqu'à ce que tu sois debout droite. Ensuite, fais la prosternation jusqu'à ce que tu te prosternes tranquillement. Ensuite, lève-toi jusqu'à ce que tu sois assis tranquillement. Ensuite, fais la prosternation jusqu'à ce que tu te prosternes tranquillement. Ensuite, lève-toi jusqu'à ce que tu sois assis tranquillement. Fais ensuite de même pour l'ensemble de ta prière. Prière ressemblant à la prière du bien-aimé, prophète sallallahu alayhi wa sallam, récit, le saint Abi, le chef des croyants, Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, s'efforçait d'agir selon les sunan. Alors que Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, était le gouverneur de Madina, Sayyiduna Anas bin Malik, radiallahu anhu, qui était le serviteur spécial du prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, vint à Madina depuis l'Irak et accomplit la prière derrière lui. Sayyiduna Anas bin Malik, radiallahu anhu, aimait la prière dirigée par Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi. Après avoir accompli la prière, Sayyiduna Anas bin Malik, radiallahu anhu, fit la remarque.
Al-Ghulami ma ra'aytu ahadan ashbaha bi salatin nabiyyi min hadha.
Je n'ai vu personne accomplir la prière ressemblant à celle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ce jeune homme. Qu'Allah azza wa jal leur fasse miséricorde et qu'il nous pardonne sans avoir à rendre de compte par leur entremise. Amin. Bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. Prière de l'imam Ahmad Raza Khan. Rahmatullahi alayh, Maulana Muhammad Hussein Chishti Nizami rahmatullahi alayh a déclaré « De nos jours, les gens ne font pas la prière avec autant de soin que l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh. J'accomplis toujours deux unités de prière dans le laps de temps où il rahmatullahi alayh n'accomplissait qu'une seule unité. D'autres personnes accomplissent au moins 6 ou même 8 unités dans le temps où j'en accomplis 4. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et nous pardonne sans avoir à rendre de compte par leur entremise. Amin. Bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Merveilleuse récitation du prophète bien-aimé. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Afin d'atteindre l'humilité et la concentration dans la prière, il convient de réciter le noble Coran lentement et lorsque la charia le permet. Par exemple, lorsque l'on fait la prière la nuit, dans la solitude, lors du tahajjud, etc., il convient de reciter le noble Coran avec une voix mélodieuse. Le saint Tabi Sayyiduna Ya'la bin Mamlak, rahmatullahi ta'ala alayh matulan, demanda à la mère des croyants, Sayyidah Salama, radiallahu anha, sur la façon dont le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, récitait le noble Coran, elle décrivit alors une récitation dont chaque lettre était claire. Réciter le Coran correctement, même si c'est peu. Dans Mir'at ul-Manajih, le mufti Ahmad Yar Khan rahmatullahi alayhi a déclaré « Le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam récitait le noble Coran très lentement et clairement. Chaque mot qu'il sallallahu alayhi wa sallam récitait était apparent. Les lettres de chaque mot étaient distinctes. Les mots qu'il sallallahu alayhi wa sallam récitait n'étaient pas mélangés les uns avec les autres. Nous devrions également réciter le noble Coran de la même manière. Au lieu d'essayer de le réciter en grande quantité, nous devrions essayer de le réciter correctement. même si c'est en petite quantité. Un bon qari est celui qui craint Allah Azza wa Jal. Sayyiduna Tawus, rahmatullahi alayh, a déclaré que le dernier prophète, sallallahu alayhi wa salam, a été interrogé sur la personne qui a la meilleure voix et la meilleure récitation lors de la récitation du noble Coran. Il, sallallahu alayhi wa salam, répondit: celui qui, lorsque vous l'entendez réciter le noble Coran, vous sentez qu'il craint Allah Azzawajal. Les cheveux des auditeurs se redressaient. Commentant le hadith béni ci-dessus, le mufti Ahmad Yar Khan rahmatullahi alayh a déclaré ci-dessous: ce hadith est une explication de tous les hadiths dans lesquels une bonne voix et une bonne récitation ont été ordonnées. En d'autres termes, la récitation qui est faite avec le cœur et l'âme et avec la crainte divine est bonne, quelle que soit la voix de la personne qui récite, qu'elle soit belle ou mauvaise. Il a été observé que la voix de certains saints était lourde, mais que lorsqu'ils récitaient le noble Coran, leurs cheveux et ceux des autres s'hérissaient et leur cœur tremblait. Qu'Allah Azzawajal nous bénisse avec la récitation du noble Coran de cette manière, Emin. Réciter le noble Coran est un très grand privilège. La récitation d'une lettre du noble Coran rapporte au récitant la récompense de 10 vertus. Le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la personne qui récite une lettre du livre d'Allah Azzawajal gagnera une vertu qui sera équivalente à 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une seule lettre, mais plutôt que Alif est une lettre, que Lam est une lettre et que Mim est une lettre. 100 vertus en échange de chaque lettre. Le chef des croyants, Sayyiduna Ali Murtada radiallahu anhu, a déclaré que celui qui récite le noble Coran debout en état de prière sera béni par 100 vertus en retour de chaque lettre. Pour celui qui récite le noble Coran assis en état de prière, il y a 50 vertus en retour pour chaque lettre. Pour celui qui récite le noble Coran en état d'ablution, mais pas en état de prière, il y a 25 vertus. Pour celui qui récite le noble Coran sans ablution, il y a 10 vertus. Se tenir debout la nuit pour l'adoration est supérieur, car le cœur est moins préoccupé à ce moment-là. Certains frères en islam récitent le noble Coran très rapidement, afin d'avoir le privilège de le réciter de plus en plus. Mais ils ne suivent pas les règles du tajwid, finissant par réciter de manière incorrecte. Il est obligatoire pour une personne de prononcer correctement les lettres du noble Coran et de s'abstenir de le réciter de manière incorrecte. L'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh a déclaré: sans aucun doute, il est obligatoire pour une personne de connaître le tajwid au point de prononcer les lettres correctement et de s'abstenir de toute récitation incorrecte. Réciter le noble Coran lentement, Allah Azza wa Jal a dit dans le verset 4, Sourate al-Muzzammil, partie 29:
Warattilil Qur'ana tartila.
Réciter le Coran lentement et joliment. Expliquant le mot tartil, mon maître l'imam Ahmad Raza rahmatullahi alayh a mentionné: réciter le noble Coran lentement en faisant des pauses appropriées, de manière que l'auditeur puisse compter les versets et les mots. Il convient de réciter le noble Coran pendant la prière obligatoire, de manière que chaque lettre soit distincte. Pendant la prière de Tarawih, la récitation peut se faire à un rythme moyen, et pendant les prières surérogatoires de la nuit, on peut réciter le noble Coran à une vitesse telle qu'on est capable de le comprendre. Il est dit dans le Madarik: il faut être particulièrement attentif à prononcer les lettres séparément et calmement, en faisant attention aux pauses, indications de pause, et à toutes les voyelles. Le mot « tartil », c'est-à-dire lentement, par étapes distinctes, met l'accent sur cette règle, montrant que cette question est indispensable pour quiconque récite le noble Coran. Pour connaître les règles de tartil, étudiez « Fatawa Razawiyah » volume 6, de la page 275 à 282. Les personnes ordinaires devraient réciter le Coran à un rythme moyen. Une excellente explication est donnée aux pages 478 et 479 Fatawa Razawiyah, volume 7, sur la récitation du noble Coran à un rythme lent et moyen. Permettez-moi de vous en donner un résumé en termes simples. Ceux qui n'ont pas la capacité de réfléchir au noble Coran tout en le récitant devraient le réciter à un rythme moyen. Pour ces personnes, cela devrait être préférable, car plus elles récitent rapidement, plus la quantité de récitation qu'elles achèveront sera importante. En échange de chaque lettre, la récompense de 10 vertus est accordée. Ainsi, si elles récitent 500 lettres au lieu de 100, elles obtiendront la récompense de 5000 vertus au lieu de 1000. Chaque type de récompense ne dépend pas de la compréhension. Récit, Sayyiduna Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullahi alayh, vit Allah azza wa jal en rêve et demanda humblement « Ô mon Seigneur, qu'est-ce qui libère tes serviteurs de ton châtiment ?» Allah azza wa jal répondit « Mon livre, c'est-à-dire le noble Coran. » Sayyiduna Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullahi alayh, dit « Le réciter avec ou sans compréhension. » Allah azza wa jal dit « Dans les deux cas, c'est-à-dire en la récitant. » Avec compréhension comme sans compréhension. Pour plus de détails, voir les pages 478 et 479 de Fatawa Razawiya, volume 7, Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Connaître les règles indispensables de la prière est obligatoire. Il est obligatoire de connaître les règles indispensables de la prière. Lorsqu'une personne est consciente des actes fard, obligatoires, et wajib de la prière et de ses sunan, ainsi que des actions invalidant la prière, elle peut accomplir la prière correctement. Au contraire, si elle ignore les règles indispensables de la prière, comment pourra-t-elle l'accomplir correctement? Si la prière est obligatoire, il est également obligatoire de connaître les règles nécessaires qui s'y rapportent. Prière d'un jeune marié, récit. Ô dévot du bien-aimé, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, nous vivons une période critique. Dans notre société, il y a des musulmans qui ne savent pas du tout comment accomplir la prière. Un madani frère en islam de Dawat et Islami déclare « Je suis l'imam d'une mosquée de Karachi. Une nuit, après la prière de Isha, quelques frères et moi-même étions présents dans la mosquée pour la madrasa Tul Madina, pour les adultes. Pendant ce temps, un jeune marié arriva à la mosquée avec certains de ses amis et me demanda « Faites-moi accomplir la prière. » Je lui répondis « J'ai déjà dirigé la prière. Veuillez faire votre prière individuellement. » Il répéta « Non, aidez-moi à faire la prière. » Là, j'ai compris. En fait, il ne savait pas du tout comment faire la prière et il voulait que je lui explique la méthode. J'ai demandé à un frère en islam, raisonnable, de lui expliquer la méthode. Il l'informa de la méthode de prière, mais le jeune marié de 34 ans ne savait rien de l'inclinaison dans la prière, de la prosternation, du tashahhud, etc. Il ne savait pas comment accomplir ses actes. Il avait besoin d'être informé de tout, c'est-à-dire de la manière de lever les mains jusqu'aux oreilles, de les replier sous le nombril et de la manière de s'incliner et de se prosterner dans la prière. Chaque action, du début à la fin, lui a été expliquée. À notre grande surprise, le jeune marié n'était pas venu pour accomplir Isha dans la mosquée. Au contraire, il était venu suivre une tradition de sa communauté en accomplissant deux unités de prière surérogatoires à l'occasion du mariage. Le discours. La première nuit dans la tombe changea ma vie. Ô dévot de la prière. Afin de prendre l'habitude de faire la prière calmement, d'apprendre les règles nécessaires à la prière et de développer une passion pour l'humilité et la concentration dans la prière, voyager régulièrement avec les madani kafila. Voici un madani récit pour vous y convaincre. Un frère en islam, âgé d'environ 24 ans et originaire de Daharki, quartier de Godki, Sindh, était un jeune homme matérialiste. Il ne connaissait même pas les bases de l'islam. Il ne faisait pas la prière et ne jeûnait pas non plus. Il traînait dans les rues avec ses mauvais amis et regardait des films et des séries. En raison de ses mauvaises fréquentations, il s'est même mis à boire de l'alcool. Par la grâce d'Allah Azzawajal, Dawat et Islami a mis de nombreuses personnes malveillantes sur la voie de la piété. Il a également été inspiré. Le mérite en revient au prêcheur de Dawat et Islami qui a fourni des efforts individuels et l'a invité à un rassemblement hebdomadaire inspiré par la sunna. Alhamdulillah, il a assisté au rassemblement. Bien qu'il y ait eu un certain impact sur lui, il est resté privé des bénédictions de Dawat et Islami en raison de son habitude invétérée de commettre des péchés. Au bout d'un certain temps, le même prêcheur l'invita à participer à un madani kafila de 3 jours avec les dévots du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Acceptant l'invitation, il s'est engagé dans la voie d'Allah azawajal. Pendant le madani kafila, un prêcheur le motiva à suivre une formation de tarbiyat de 63 jours. C'est l'AAD, une formation pour se reformer et apprendre, qu'il a eu la chance de suivre. Au cours de cette même formation, il a également saisi l'occasion d'assister à un rassemblement de tarbiyat de 3 jours, organisé à Faizan et Madina, Karachi, où il a entendu le discours « Première nuit dans la tombe ». Ce discours transforma son cœur entièrement, l'inspirant à se repentir de ses péchés antérieurs sincèrement et à faire une intention ferme d'adopter une apparence conforme à la sunna. Alhamdulillah. Non seulement il eut le privilège de devenir l'imam d'une mosquée, mais il fut également promu en tant que chef d'un mouchawarat régional, ayant ainsi la responsabilité de mener à bien les madani, activités de Dawate islami. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad.